l'université d'été de l'Anacofi, le 2 septembre 2021, en direct du pavillon d'Arbenonville, sur Radio Patrimoine.
La rentrée sur Radio Patrimoine, on l'a fait au cœur de cette université d'été de l'Anacofi, pavillon d'Arbenonville. On est en compagnie de Patrick Montagnier. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Vous êtes premier secrétaire général adjoint au secrétariat général de l'ACPR, autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour faire simple pour nos auditeurs, si je dis que vous êtes le gendarme des assureurs et des banques, c'est juste, vous voulez compléter?
On va le dire comme ça, mais au-delà, nous sommes aussi responsables de surveiller les conditions de commercialisation de tous les produits bancaires et assurantiels, y compris par les gens qui sont les mandataires, qu'ils soient courtiers, mandataires, agents généraux, de ces deux professions réglementées que sont les banques et les assureurs.
Alors justement, les courtiers ou le courtage, on va s'y intéresser. Vous sortez de la deuxième conférence plénière sur cette réforme du courtage. Qu'est-ce que ça va changer pour les acteurs du courtage, justement, les courtiers? Il faut faire un distinguo, justement.
Oui, tout le monde n'est pas courtier. On peut être intermédiaire sans être courtier. On peut être mandataire exclusif, par exemple. Vous ne représentez qu'un seul établissement. Vous pouvez être agent général, vous pouvez être salarié aussi, hein, et vendre des produits d'assurance ou bancaire. Le courtier, lui, normalement, il est mandaté par le client pour essayer de trouver la meilleure solution possible sur le marché. Ce qui fait que, normalement, il doit avoir une petite expertise de ce qui se passe en termes d'offres possibles sur le marché. Donc, quand on parle de réforme du courtage, le mot est peut-être un peu large, puisque ce qui est réformé, c'est l'organisation de la profession. C'est-à-dire la façon dont on va dorénavant obliger chacun des courtiers présents en France à adhérer à une association qui devra être représentative, au moins 10% du total. Et ces associations devront être agréées par la CPR et auront un certain nombre de missions vis-à-vis de leurs adhérents.
Ce n'était pas le cas jusqu'ici. C'est-à-dire que ce qu'on a, par exemple, sur les fameux conseillers en gestion de patrimoine, hein, qui avec 4 ou 5 associations, ça dépend du comptage, ce n'était pas obligatoire jusqu'ici. On pouvait être courtier sans être affilié ou membre d'une association.
Voilà, ce qui existe pour les CIF, hein, les conseillers en investissement financier, je crois que c'est ce nom exact, n'existait pas pour les courtiers en opérations bancaires ou les courtiers en opérations d'assurance. Un certain nombre d'entre eux adhéraient soit à des syndicats professionnels, soit à des associations, hein, comme celle qui aujourd'hui fait sa journée, mais il n'y avait aucune obligation et sur les 35 000 courtiers existants en France, la fraction qui adhérait à l'une de ces associations ou à l'un des syndicats était quand même relativement faible en nombre. C'était généralement les plus importants, encore que, mais en nombre absolu, il y a une grande partie de cette population qui n'était pas adhérente.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, hein, le chiffre est évidemment pratiquement 10 fois plus élevé que les CIF, hein, 35 000 courtiers qui sont touchés par cette mesure, en tout cas cette réforme du courtage. Ça veut dire aussi pour l'Anacofi comme les autres associations, le devoir, le besoin de s'adapter assez rapidement pour accueillir ces nouveaux adhérents.
Et surtout de se structurer en séparant bien par exemple ce qui peut être de l'ordre du syndicat professionnel, de ce qui sera de l'ordre de l'association qui, elle, reçoit un certain nombre de missions de par la loi. Mmh. Donc ça, il faudra bien structurer. Ces associations, en fait, elles vont veiller aux conditions d'entrée sur le marché avant l'inscription sur le registre de l'ORIAS, qui tient le registre national de l'ensemble des intermédiaires en France. Et elles devront vérifier, elles devront accompagner, elles auront un rôle de formation, puisqu'il y a des obligations de formation chez les courtiers qui sont aujourd'hui rendues obligatoires essentiellement par les textes européens, mais il en existait déjà avant dans les textes nationaux. Et puis vous avez aussi la garantie financière, hein, quand vous recevez des fonds du client. C'est notamment le cas pour les courtiers d'assurance, pas tous, enfin, les fonds parfois peuvent transiter par eux. Il faut qu'ils aient une garantie financière si à tout hasard ils géraient mal leur affaire et que les fonds n'aboutissaient pas chez l'assureur, par exemple, et que donc le client, lui, ne doit pas perdre. Donc il faudra aussi vérifier qu'ils ont tous un contrat de garantie financière et aussi un contrat qui garantit leur responsabilité professionnelle. Donc il y a des choses comme ça que les associations devront filtrer de manière à pouvoir effectivement avoir une profession dont on est certain qu'elle a les conditions minimales requises pour pouvoir exercer auprès des clients.
Patrick Montagnier, quels sont les délais? Quels sont les délais d'application? Quand c'est que cette réforme du courtage va rentrer en vigueur?
Le législateur, dans sa grande sagesse, a prévu deux bornes temporelles. La première, avril 2022, pour tous les courtiers qui, à cette date-là, ne sont pas inscrits ou réinscrits à l'ORIAS ou qui se créent après avril 2022. Et puis une seconde date, un an plus tard, pour l'ensemble de la profession. Pourquoi ? Parce que généralement, les réinscriptions à l'ORIA se font plutôt en début d'année. Donc en avril, on a à peu près tous ceux qui étaient déjà inscrits se sont réinscrits. Ceux qui ne voulaient pas se réinscrire se sont désinscrits. Et puis, on va donc, ça permettra aux associations aussi de commencer à se roder sur une population, certes minoritaire dans le total, mais de roder leurs outils, leur mise en place et des services qu'ils peuvent apporter.
On aura finalement une montée en charge progressive, c'est voilà. Ça, bien adaptée.
Et puis, nous ne nous faisons pas de d'illusions. Nous savons qu'au-delà de début 2023, il faudra continuer à accompagner ces associations. Alors, non pas sur l'obligation d'adhésion, parce que là, normalement, les courtiers auront eu l'obligation, mais simplement sur la façon dont elles vont mettre en œuvre en fait, les nouvelles compétences qui leur sont confiées et qui ne sont pas simples. Hein. Il faut se structurer, il faut sans doute recruter, il va falloir qu'elles aient une cotisation, elles vont devoir mettre en place aussi des outils informatiques. Nous, ce que nous en attendons pour nous, enfin, ce que le législateur en attendait et qui correspond tout à fait pour le coup aux attentes de l'autorité que nous sommes, c'était une meilleure sécurité pour le client final. C'est-à-dire d'avoir des professionnels bien formés, correctement protégés, et qui sont capables effectivement de délivrer le conseil qu'on attend d'eux pour vendre un crédit dans de bonnes conditions, hein, faire attention aux problèmes d'endettement, surendettement, vendre un produit d'assurance vie épargne correctement ou un produit santé en prenant compte vos besoins. Vous n'êtes pas sur les mêmes besoins, par exemple en épargne, suivant que vous avez 25 ans, 40 ans ou 60 ans. Vous n'êtes pas sur les mêmes échelles de temps, cela dit gentiment.
Bien donc, sûr. Voilà. Patrick Mondani, ça veut dire s'il y a cette réforme du courtage et si on veut finalement filtrer ou du moins être sûr que tout le monde va dans le même sens et remplit ses obligations, est-ce que ça veut dire qu'il y avait des dérives, qu'il y avait des choses qui étaient pas bien faites ou peut-être même pour aller sur les cas les plus critiques, certaines personnes qui étaient un petit peu à la limite ?
On a une infime fraction qui, de notre point de vue, est complètement hors les clous. Mais ça, c'est le cas complètement anormal. Et bon, voilà. Ce que nous souhaitons surtout, nous, c'est toucher la masse des 35 000 et que les associations puissent le faire. Parce que nous-mêmes, nous faisons une journée annuelle, mais même s'il y a 600 personnes dans la salle et à peu près 1 000 à 1500 connexions en live, c'est pas la même chose que d'avoir les 35 000, on le sait. Or, très souvent, ce sont des indépendants qui sont parfois même seuls. Et donc, effectivement, il leur faut à la fois rencontrer leurs clients, pouvoir facturer aussi, il faut bien qu'ils vivent. Et donc, la réglementation, qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est dur. Donc là aussi, les associations auront un rôle un peu de veille juridique, de veille réglementaire et d'accompagnement pour leur dire qu'est-ce qui est important dans les textes qui changent. Et ne serait-ce aussi de leur signaler ce qui change. Donc c'est pour ça que la multiplication des textes réglementaires, notamment parce qu'à la suite d'un certain nombre de dérives, qui n'ont pas forcément été en France d'ailleurs, qui ont pu être constatées dans d'autres pays européens et qui ont entraîné une réaction du législateur européen.
D'accord.
Toutes les directives européennes aussi.
Donc directives européennes, transposition en France évidemment, et donc ce calendrier avril 2022 pour les nouveaux courtiers et ceux qui renouvellent, et ensuite 2023 pour tous ceux qui vont se réinscrire. C'est très clair. Est-ce que vous avez des remontées du terrain justement sur les courtiers ? Comment ils prennent cette mesure ? Ils trouvent que c'est un mal nécessaire ? Ils l'acceptent ?
Je pense qu'il y a toutes les réactions. Tout à l'heure à l'Anacofi, les gens étaient extrêmement courtois en tout état de cause.
Oui.
Je pense que pour certains d'entre eux, effectivement, c'est une obligation additionnelle. Ça va être un coût additionnel, ça, nous ne l'ignorons pas. Donc il faudra aussi que les associations soient le plus efficaces possible sur la gestion de leurs moyens. Mais pour nous, ils doivent y gagner parce qu'un courtier, si fait bien son métier, normalement il a un avenir relativement radieux puisque il promet un conseil qui est indépendant du vendeur initial de produit.
Est-ce que justement, puisque ça va aussi lui coûter plus cher, adhésion, formation, temps évidemment, est-ce que in fine ça va pas se répercuter sur nous, les clients finaux ?
Alors de toute façon, une partie, c'est tout à fait possible, encore qu'aujourd'hui, il y a quand même des commissionnements relativement significatifs quand vous regardez vos nouveaux contrats. Ce qui compte surtout pour nous, c'est que le client, il ait le bon conseil. Parce que vous pouvez payer le même niveau de commission avec un produit qui vous est adapté et un qui ne l'est pas. Donc ce que l'on souhaiterait, c'est qu'il vous soit adapté et que vous soyez rentré dans le contrat yeux grands ouverts, si je puis dire. Et en toute connaissance de cause, et que voilà, ça sécurise aussi d'ailleurs les professions qui vendent, puisque ça évite ensuite les recours en justice pour mauvaise vente. Donc, mais l'idée, c'est vraiment yeux grands ouverts. Quand je signe quelque chose, j'ai compris ce que je signe et je sais quels sont les risques que je prends, à quoi je m'engage, quelle est la durée moyenne pour éviter de sortir trop tôt, etc.
En conclusion, on va signer dans les prochaines années en connaissance de cause avec un professionnel bien formé qui a adhéré à son association, même si c'est un tout petit peu plus cher, ça on verra. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur cette réforme du courtage. Un grand merci Patrick Montagnier. Je rappelle que vous êtes première secrétaire générale, adjoint au secrétaire général de la CPR, et à très bientôt.
Merci bien.
L'université d'été de l'Anacofi, le 2 septembre 2021, en direct du pavillon d'Armenonville, sur Radio Patrimoine.